Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h. Florine Boukhelifa.
Les 16h30 sur Radio Campus et vous êtes bien dans Microcité, l'émission des étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. Une émission particulière aujourd'hui puisque nous sommes en direct des locaux de GEM. L'école de commerce de Grenoble organise cette semaine son festival de géopolitique. Le thème de cette 11e édition, l'union ou la désunion européenne. Microcité a donc décidé de se mettre à l'heure anglaise puisque le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté en faveur de leur sortie de l'Union européenne. Un divorce initialement prévu le 29 mars prochain, mais vous verrez que comme dans toute séparation, tout n'est pas si simple. Alors au sommaire aujourd'hui, notre dossier préparé par Xavier Ponroy sur les conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni peut-il s'en sortir seul? La France sera-t-elle touchée par ce divorce? Réponse en deuxième partie d'émission avec nos invités. Nous rejoindrons Rudy Pupin en direct de la mezzanine de GEM. Il est en compagnie d'élèves du lycée Europol. Ils nous parleront de leur travail sur le Brexit. Enfin, notre long format sera consacré aux avantages et aux limites d'appartenir à l'Union européenne. Julien Penaud nous en parlera en fin d'émission. Merci de nous écouter sur Radio Campus 90.8. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Microcité, ça commence maintenant. Mais avant, faisons un point sur l'actualité européenne de la semaine. Bonjour Léo Corcos.
Bonjour Florine, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal un peu spécial, la situation britannique évidemment. Hier, le Parlement a adopté la motion de Theresa May demandant un report de la date du divorce. Le dernier épisode d'une semaine mouvementée, on y revient dans ce journal. Et face à cette situation, les citoyens britanniques sont partagés. Luc Chemla est allé à leur rencontre cette semaine dans les rues de Liverpool. En France, c'est le 12e jour de grève chez les douaniers. Ils demandent plus de moyens pour se préparer au Brexit. Et enfin, bien sûr, on parlera des élections européennes et un enjeu majeur du scrutin, la participation des jeunes. Aurélia Valarié est allée à la rencontre des étudiants de Saint-Martin-d'Hères.
Microcité.
Mais avant de parler d'Europe, un détour par la Nouvelle-Zélande. Ce matin, 49 personnes ont été tuées et près de 50 blessées. L'attaque a été perpétrée contre deux mosquées de la ville de Christchurch. La première ministre Jacinda Ardern parle d'une attaque planifiée par un terroriste extrémiste de droite. 4 personnes ont été arrêtées. La situation britannique a tout d'un roman feuilleton à 2 semaines de la date butoir du Brexit. Les députés ont adopté hier la motion de Theresa May. Ils demandent officiellement le report du divorce au 30 juin. C'était leur 3e vote cette semaine. Aurélia Valarié, bonjour. Vous revenez sur cette semaine mouvementée.
Et oui, c'est une véritable saga du Brexit qui se profile sous nos yeux. 3 votes et toujours aucun accord. C'est surtout ce que l'on retient de cette semaine. Alors le premier a eu lieu mardi. Les députés ont rejeté pour la 2e fois l'accord que Theresa May avait négocié avec l'Union européenne. Donc suite à cette décision, le lendemain, mercredi, les députés conservateurs ont adopté un amendement. Il exclut totalement une sortie sans accord. La première ministre britannique doit donc reprendre les négociations avec Bruxelles. Et pour cela, le Parlement a accepté hier un report de la date du Brexit. Il était prévu le 29 mars. Il pourrait être repoussé au 30 juin. Mais ce n'est pas fini. Un autre vote devrait avoir lieu dans les jours qui viennent. Theresa May représentera son plan de sortie aux députés. Mais attention, elle a mis en garde le Parlement. Si jamais sa proposition est à nouveau refusée, le report pourrait aller au-delà du 30 juin. Et si c'est le cas, l'Angleterre participerait aux prochaines élections européennes à la fin du mois de mai.
Merci Aurélia. Et ce report doit être encore approuvé à l'unanimité par le Conseil européen lors de son sommet les 21 et 22 mars prochain. Vous l'aurez donc compris, l'avenir du pays est flou. Négociations et votes s'enchaînent au Parlement depuis 2016 sans véritable issue. Alors dans quel état d'esprit sont les citoyens britanniques, les spectateurs de ce qu'il y a tout d'une pièce de théâtre? Luc Chemla s'est rendu à Liverpool à leur rencontre.
31 ans est assis sur un banc. Il mange son sandwich, mais 3 ans après le vote, le Brexit, il ne le digère toujours pas.
Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu quitter l'Europe. Nous aurions dû rester. C'est une erreur et cela va affecter nos vies, mais on ne sait pas comment. Nous verrons bien ce qu'il se passera.
La principale crainte, c'est une sortie sans accord de l'Union européenne, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix et des taxes. Daniel est étudiant à l'université de Liverpool.
Oui, j'ai peur car nous sommes dans l'incertitude et nous n'avons toujours aucun plan
de sortie. Si j'ai les compétences, oui, je pourrais bien aller travailler à l'étranger en étant sûr de trouver un emploi qui me convienne plus qu'ici.
Même ceux qui ont voté pour le Brexit en 2016 s'interrogent. Gladys, 59 ans, ne regrette pas son choix, mais elle s'inquiète pour l'avenir.
Nous ne savons rien. Le Brexit aura forcément un impact sur des choses simples comme nos passeports pour partir en vacances. Nous ne savons vraiment pas à quoi nous attendre. Les journaux ont également annoncé qu'il y aurait des problèmes d'investissement en Grande-Bretagne. Mais maintenant, la décision est prise. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir si tout cela est vrai.
Une situation instable qui a poussé l'an dernier 200 000 Britanniques à demander la double nationalité d'un autre pays, l'Union européenne.
Le reportage de Luc Chemla en terre britannique.
Pour l'Union européenne, les dossiers à gérer ne gravitent pas uniquement autour du Brexit.
Et oui, en effet, hier, le président américain Donald Trump a mis la pression sur Bruxelles. Les deux parties essaient depuis des mois de conclure un accord commercial. Mais hier, les eurodéputés, très divisés, ont rejeté un texte sur l'ouverture des négociations avec les États-Unis. Or, Donald Trump menace, sans pourparlers commerciaux, il pourrait imposer de lourdes taxes douanières. Lui a fait amende honorable. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est excusé auprès de ses partenaires du Parti populaire européen. Connu pour ses positions très eurosceptiques, il avait qualifié certains eurodéputés du PPE d'idiots utiles la semaine dernière. Des excuses jugées insuffisantes, le PPE doit décider le 20 mars s'il exclut Viktor Orban et son parti, le Fidesz, de son groupe au Parlement européen. En France, les douaniers sont actuellement en grève aux frontières et aux aéroports, conséquence des contrôles renforcés et des vols retardés vers les Royaumes-Unis. Les douaniers veulent une amélioration de leurs conditions de travail déjà critiques. Alexandre Lepère.
37 heures de travail hebdomadaire, des heures supplémentaires à rallonge et un rythme effréné. C'est ce que subissent déjà les douaniers à l'aéroport de Grenoble.
J'ai dû travailler tous les week-ends du mois de janvier et la moitié des week-ends du mois de février.
Hamza Adli, représentant CGT des douaniers en Isère, pour lui, si le temps de travail augmente encore, personne ne pourra suivre le rythme.
Après le Brexit, ce sera une mission immigration plus une mission douanière, c'est-à-dire le contrôle des personnes, certes, ainsi que des marchandises qu'ils transportent. Vu l'effectif, on ne pourra faire que la mission immigration. Et en gros, l'administration dira, vous vous occupez des papiers, les marchandises importées, vous ne pourrez pas les faire, donc vous ne les ferez pas.
Avec le Brexit, les douaniers de l'aéroport de Grenoble demandent une augmentation de 50% de leurs effectifs. Pas sûr pour autant que le gouvernement les entende, selon le secrétaire régional FO, Cédric Champlet.
On assiste à des effets d'annonce, on dit oui, bon, il y a eu des attentats, on va créer des postes, il y aura 1000 recrutements. Chaque fois, sur ces 1000 recrutements, on n'a que la moitié.
Pour l'heure, aucun compromis n'a été trouvé avec le ministère de l'économie. Gérald Darmanin a quand même déjà averti les syndicats. Il faudra choisir entre une augmentation des effectifs ou une hausse des salaires.
Et la grève devrait encore se prolonger ce week-end. Mercredi, Amnesty International a accusé l'Union européenne de légitimer les mesures de la police des frontières croates. En cause, les violents refoulements des demandeurs d'asile à l'entrée de l'État slave. Amnesty dénonce le financement de cette police par l'Europe. L'an dernier, près de 25 000 migrants venus d'Asie comme d'Afrique ont tenté d'entrer en Croatie et plusieurs milliers ont été interceptés et expulsés vers la Bosnie.
Et l'Europe, c'est aussi les élections européennes.
Et oui, ce matin, Raphaël Glucksmann, le cofondateur du mouvement Place Publique, a rejoint la course. Il devrait être la tête d'une liste commune avec le Parti Socialiste. Hier soir, sur le plateau de l'émission politique, c'est Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui a également déclaré sa candidature pour La République En Marche, mais elle doit encore obtenir l'aval de son parti. En tout cas, pour espérer être élu le 26 mai, ils devront convaincre les jeunes. Ils étaient 73% à s'abstenir en 2014 lors du précédent scrutin. Qu'en sera-t-il cette année ? Aurélia Valarié est allée à la rencontre des étudiants sur le campus de Saint-Martin-d'Hères.
Devant l'amphithéâtre Stendhal, Julien et Sarah, en licence de langue, se demandent encore s'ils iront voter.
Je me sens pas concerné, je me sens pas investi. On vit dans une sorte de crise de démocratie représentative. Moi, j'aimerais bien pouvoir voter blanc si ça avait réellement un impact.
Sincèrement, j'y réfléchis, je sais pas encore, parce que franchement, j'ai pas envie de voter à défaut. Je voterai que si j'ai de réelles convictions.
Pour Marie, étudiante en droit, pas de doute, elle déposera son bulletin dans l'urne le 26 mai, mais elle déplore ce manque d'intérêt de la jeunesse pour ces élections.
Malheureusement, personne ne vient dire aux jeunes qui, de même, ne vont pas l'effort de se renseigner, que c'est important et à quel point c'est important. C'est vrai que les élections, celles-là, elles ont vu comme vraiment secondaires et c'est vraiment dommage.
Sabine Sorugger, directrice du master gouvernance européenne à Sciences Po Grenoble, tente d'expliquer ce désamour.
Je pense qu'on a eu pendant très très longtemps un discours qui, pour notre génération, est très importante, qui est l'Union européenne apporte la paix, mais qui aujourd'hui n'intéresse peu les jeunes, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc il faut réussir à montrer ce que l'Union européenne concrètement dans tous les domaines fait pour non seulement les jeunes mais aussi pour la population des différents États membres plus généralement.
Les élections européennes ne sont d'ailleurs pas les seules à qui les jeunes Français tournent le dos. En 2017, lors des présidentielles, ce sont plus de 40% des 18-35 25 ans qui se sont abstenus au second tour.
Et le plus jeune candidat de ces élections européennes devrait être Jordan Bardella, 23 ans, la tête de liste du Rassemblement national. Le 39e Salon du Livre ouvre ses portes au public aujourd'hui à Paris. Vous avez jusqu'à lundi pour en profiter. Et en cette année de scrutin européen, c'est une première. Ce n'est pas un pays, mais un continent, l'Europe, qui est mise à l'honneur. Plus de 3000 auteurs, dont Johan Sfar ou Amélie Nothomb, seront présents. Enfin, en football, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe. Hier, le Stade Rennais a été battu par Arsenal en 8e de finale de la Ligue Europa. Les Bretons, pourtant vainqueurs 3-1 à l'aller, ont été vaincus 3-0 au retour et sont donc éliminés.
Merci Léo. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
Vous écoutez Microcité, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre émission spéciale Brexit continue et il est temps de retrouver notre journaliste en direct de la mezzanine de Gem. Il s'est intéressé aux 19-35 ans puisqu'on en parlait dans le journal. 73% d'entre eux n'ont pas voté en 2014 lors des élections européennes. Pourtant, certains s'y intéressent beaucoup. Rudy Pupin, bonjour.
Bonjour Florine.
Vous êtes avec des élèves du lycée Europol de Grenoble. L'Europe, ça leur parle. Ils en ont même fait une exposition.
Oui, Florine, une expo sur la désunion européenne. Autour de nous, des cartes en street art faites avec des pochoirs, une dizaine d'affiches au total qui abordent les différents enjeux, les nombreux clivages qui existent entre les pays membres. Carolina, vous êtes en terminale. Vous avez travaillé pendant plusieurs mois sur cette exposition, notamment sur le Brexit, un thème qui revient beaucoup. Vous êtes jeune, c'est une question qui vous touche, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Oui, et je pense que ça touche particulièrement tous les jeunes européens. Parce que, par exemple, personnellement, j'envisageais avec certitude de vouloir faire des études de droit en Angleterre. Et maintenant que j'ai reçu une offre d'université, je suis plus aussi certaine parce que je ne suis pas sûre de pouvoir après revenir en France et pouvoir poursuivre ma passion tout en étant reconnue au niveau local. Donc, je pense que ça amène beaucoup d'incertitudes pour les jeunes au niveau de choses de laquelle on pouvait bénéficier avant et maintenant elles sont à risque, par exemple pour le programme Erasmus.
Teresa, vous êtes en France depuis 8 ans, vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il vous plaît dans ce concept?
Pour moi, l'Union européenne, c'est vraiment un avantage parce que ça m'a permis de venir en France facilement, de déménager avec ma famille et de rentrer en Italie aussi pendant les vacances facilement parce que les frontières, voilà, c'est plus facile grâce à l'Union européenne. Et ça me permet aussi d'envisager un cursus binational, donc en France et en Italie. Et aussi, je vais demander bientôt la nationalité française. Comme ça, je pourrai avoir la double nationalité, donc franco-italienne. Et ça va être, et pour moi, donc l'Union européenne, c'est vraiment un avantage et ça me permet de faciliter beaucoup aussi dans mes études.
Vous voyez par exemple qu'il y a beaucoup notamment en Italie, les eurosceptiques qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que ça vous... J'imagine que ça fait un peu peur aussi à ce niveau-là. Vous avez peur de quitter l'Europe, le Brexit par exemple. On voit qu'il y a beaucoup les nationalistes qui montent en Europe. Ça vous fait quoi? Ça vous fait un peu peur?
Oui, peur. Et c'est perturbant aussi de voir des Italiens, oui, qui disent non, on veut pas d'émigrer, alors que moi, en tant qu'Italienne, je suis émigrée aussi en France. Donc oui, pour moi, c'est perturbant. Et oui, forcément, oui, ça fait peur.
Enfin, Eva, juste à côté de vous, Eva, c'est un regard assez pessimiste, non? Comment vous voyez l'avenir de l'Europe avec toutes ces montées des nationalistes, des extrémistes?
C'est vrai qu'on n'a pas forcément une vision pessimiste de l'avenir de l'Europe, mais plutôt beaucoup d'inquiétude, parce qu'on ne sait pas avec certitude quelles seront les conséquences directes de la sortie du Royaume-Uni, par exemple, avec le Brexit. Et c'est vrai que je trouve qu'en tant que jeune, on a vraiment notre rôle à jouer, et notamment aux élections au Parlement européen, donc qui ont lieu dans quelques mois, on pourra vraiment jouer notre rôle de citoyen européen, et donc jouer un rôle à notre échelle de jeunes européens.
Alors sachez, si vous voulez voir cette exposition, qu'elle sera visible jusqu'à demain, et toutes ces cartes publiées seront reprises par le CNRS. Et merci également à Claude Hérodet, votre professeur, qui vous a soutenu, c'est ça?
Oui, exactement, nous a beaucoup poussé dans ce projet, et c'est vraiment un soutien pour nous.
Allez, merci beaucoup, très bonne fin de festival à vous.
Merci Rudy Pupin. Il est 16h47 sur Radio Campus, place maintenant au débat.
Le dossier.
Bonjour Xavier Ponroy.
Bonjour Florine.
Évidemment, aujourd'hui, on va parler du Brexit avec vous et plus précisément de ses conséquences.
Et oui, should I stay or should I go? Les Britanniques ont fait leur choix il y a près de 3 ans, quitter l'Europe. Un choix politique, peut-être plus dicté par l'émotion que par la raison. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en nous penchant sur les conséquences de la sortie du Royaume-Uni. Alors c'est certain, pour l'instant, tout reste assez flou parce que même si les députés britanniques ont dit non à une sortie sans accord, cette option reste toujours possible. Aujourd'hui, la principale question, c'est plutôt quand aura lieu ce Brexit. Mais même une sortie concertée avec l'Europe aura un impact sur l'économie anglaise, française, évidemment, et française et européenne. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Le Royaume-Uni peut-il s'en sortir seul? Les échanges avec l'Europe et la France vont-ils diminuer? Que se passe-t-il si la livre sterling s'effondre, si l'immobilier anglais s'effondre? Pour participer à ce débat, j'accueille deux invités, deux guests plutôt, puisqu'ils sont tous les deux britanniques. Avec nous, Phil Eyre, vous êtes directeur des programmes du MBA ici à GEM. Vous êtes également professeur. Bonjour.
Bonjour, et j'ai également la nationalité française depuis l'année dernière.
Eh bien, bienvenue parmi nous. Et avec nous aussi, James Barisic, vous êtes spécialiste en stratégie digitale d'entreprise et conférencier aussi à GEM pour de multiples occasions. Bonjour.
Bonjour, je suis seulement que anglais, malheureusement.
C'est déjà ça. La première question est pour vous, Phil Eyre. Le Royaume-Uni peut-il s'en sortir tout seul, sans l'Europe, sans le marché unique?
Mais la question... La question est bien posée. La réponse rapide, tout d'abord, c'est que c'est non. La Grande-Bretagne a besoin de l'Europe. Simplement, regardant les exports, on est presque 55% de nos exports, 43% de nos exports vont vers l'Europe. Mais maintenant, évidemment, il faut composer avec la décision Brexit. Donc, pour moi, je pense qu'on se rend compte petit à petit de l'impact négatif économiquement, et que déjà, ayant écarté la possibilité de no deal, pour moi, la question est posée vraiment maintenant, est-ce que c'est possible de rester dans le giron de l'Europe, notamment avec appartenance continue à l'union douanière, et logiquement, si on a un appartement à l'union douanière, on reste aussi dans le marché unique. Le problème, évidemment, à ce moment-là, devient dans quelle mesure les Brexiteurs vont accepter ce genre de
parce que c'est pas ce qui est prévu par le projet de Theresa May pour l'instant, qui prévoit une sortie de l'union douanière.
Oui. Ok, si l'accord qui est encore pour la troisième fois accepté. Effectivement, comme vous dites, on est bien écarté, on va éloigné de ce marché. Mais l'impact économique, je ne pense pas qu'on a pris la mesure. En Angleterre, ça sera très négatif, c'est évident.
James Barisic, la sortie du marché unique, le marché unique, je rappelle, ça permet aux personnes et aux marchandises de circuler librement dans l'espace européen. Si l'Angleterre sort de ce marché unique, est-ce qu'on peut aussi s'attendre à ce que de grandes entreprises anglaises fuient le pays et ouais, aillent s'installer ailleurs?
Ça a déjà commencé. Mmh. C'est pas seulement les entreprises qui sont là à ce moment et les contrats qui sont en course d'être faits, mais pour les grandes usines, des fabricants des véhicules, des voitures, dans la planification, ces contrats, c'est franchement impossible pour l'Angleterre de gagner ces contrats. C'est nouveaux contrats pour des nouvelles voitures. Donc, il y a déjà une fuite des grandes entreprises en Angleterre. On peut pas fabriquer une voiture où plus de moitié des parts sont fabriquées en Europe et les passer en Angleterre pour être construites. C'est pas possible de le faire sans des tarifs. Et pour les grandes entreprises, c'est déjà dans la planification que ces nouvelles voitures, ils sont faits soit en Japon. Maintenant, il y a un accord entre l'Europe et le Japon, soit qu'en Europe, mais pas en Angleterre maintenant.
Pour donner un exemple d'ailleurs, il y a une semaine, le PDG de Toyota Europe a révélé que la production pourrait être arrêtée au Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, en cas de no deal. Et pour donner donc cet exemple, c'est Toyota. 3000 salariés en Angleterre sur deux usines. Donc les grandes entreprises peuvent fuir le pays, mais est-ce que les capitaux aussi peuvent éviter l'Angleterre, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, être rebutés par l'idée d'aller investir en Angleterre.
Ça arrive déjà.
Avant même la sortie officielle.
Les investissements, l'IDE, les investissements directs, a chuté de manière dramatique, notamment dans le secteur automobile. Ils se sont fendus par plus de la moitié. Donc l'impact sur la réticence, c'est présenté comme un problème limité dans la durée, parce que une fois qu'on sait ce qui va se passer, alors à ce moment-là, les investissements vont reprendre. Mais c'est la présentation, c'est le discours politique. C'est pas sûr que, en fonction évidemment du type d'accord à la fin, c'est pas sûr que les investissements reprennent, notamment si le marché unique, enfin les pays comme la France et autres sont plus attractifs, parce qu'encore au sein du marché unique. Donc reste à voir. Hein. Ils ont pris un coup très très lourd pour l'instant, un coup de freinage. On va voir dans les mois qui suivent, et notamment quand il y aura un accord qui pourrait, comme vous avez dit, être retardé au mois de juin ou même après. Dans toute cette période de doute, les investissements sont en chute libre.
D'ailleurs, pour qu'on s'en rende bien compte, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, ils ne sont pas très optimistes. C'est des prévisions de la Bank of England. C'est dans le pire des scénarios possibles, ils l'ont expliqué. Plusieurs scénarios donc. On pourrait assister à une baisse temporaire du PIB en cas de sortie dure, de hard Brexit, une montée de l'inflation à 6,5%, un chômage à 7,5% et une chute du marché de l'immobilier. James Baryzich, ce scénario catastrophe, il peut arriver ?
Il peut arriver, mais en même temps, si nous, avec ces chiffres, il y a un autre chiffre que pour moi c'est très très important. Et ça c'est parce que la plupart de l'économie britannique s'est fait avec des services et surtout des services financiers. Mmh. Et en ce moment, nous avons déjà vu les banques et les fonds d'investissement a déjà pris près de 1 000 billions de livres,
de milliards de livres.
Depuis l'Angleterre vers l'Europe, vers le monde. Ces chiffres ont déjà quitté le pays, et ça c'est un chiffre incroyable. Et ça va faire une très très grande conséquence pour l'économie anglaise.
Je vous vois réagir, Phil R.
Non, mais c'est sûr. Et pour l'instant, on n'a pas problème. On ne peut pas aujourd'hui prendre la mesure de ces mouvements, et parce qu'il y a une telle incertitude. Mais plus que ça dure, autant que la période se rallonge, autant les entreprises, les services financiers commencent à réagir avec le pied. Enfin, il quitte. C'est une évidence.
Comme et est-ce que, du coup, d'autres pays pourraient profiter, en Europe, je parle, oui, notamment de la France et de l'Allemagne,
C'est déjà le cas. La France, les Pays-Bas, Luxembourg,
Irlande,
l'Allemagne, c'est en train de se faire, oui.
Une des conséquences, donc là on parle de flux financiers, mais c'est aussi les flux de personnes. Est-ce que, et c'est peut-être déjà, ça a peut-être déjà commencé, on va assister aussi à un exode des travailleurs britanniques, notamment dans la finance, à la City, qui vont aller chercher des postes ailleurs, à Paris, à Berlin. Est-ce que ça a commencé, ce flux aussi de personnes ? James Baryzich peut-être, ou...
J'ai quitté il y a quelques ans, mais... Je ne connais pas les chiffres pour des Britanniques, mais aussi important, c'est les chiffres pour les étrangers en Angleterre. Ouais, parce que tous les services publics ont besoin des travailleurs pour gérer les services publics.
Donc les hôpitaux, par exemple.
Les hôpitaux, les écoles aussi. Et c'est vraiment, vraiment important que les gens en Angleterre commencent de comprendre que ces gens sont très importants pour le pays. Mais ils peuvent continuer à dire qu'il y a trop des étrangers et tout ça, mais au moment que ça a une conséquence pour les services publics, je crois qu'il va trouver ça très, très difficile de continuer avec des services fondamentaux pour le pays.
Donc ça, c'est un des inconvénients, pardon. Il y a aussi les étudiants. Phil Hair, je me tourne vers vous,
oui.
Puisque vous êtes directeur du programme MBA ici. Certains étudiants auront besoin de visa pour aller en Angleterre.
Oui.
Et je crois savoir que GEM a déjà été impacté par cette...
Mais c'est certain. Hein, ça fait un moment qu'avec les étudiants MBA, on organise un voyage d'études, study trip. Il y a quelques années, on voulait aller en Angleterre. Déjà, c'était compliqué. Les étudiants non-européens dans le groupe, notamment des pays asiatiques, au Moyen-Orient notamment, c'était compliqué. On ne pouvait pas être sûr d'obtenir le visa. Donc, déjà, il y a 5 ans, on avait décidé de rester dans la zone Schengen et d'aller à Barcelone. Aujourd'hui, on va à Berlin. Et c'est sûr qu'un nombre d'universités en Grande-Bretagne souffrent maintenant nous, on est gagnants ici, mais en Angleterre, il y a des étudiants qui ne veulent pas postuler, ne veulent pas demander une place en Angleterre parce qu'ils ont peur de ne pas obtenir le visa. C'est certain. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et c'est, pour revenir à la question précédente, c'est pareil. Il y a des Britanniques qui aimeraient bien rester peut-être ou aller en France et en Allemagne, mais ils ne sont pas sûrs de le statut qui sera accordé. Est-ce qu'il y aura un permis de travail ou pas? On est dans l'incertitude.
On va maintenant évoquer un autre cas très concret, le tourisme, puisque le Brexit aura un impact sur les modalités de transport des voyageurs. Nous sommes allés voir Hamza Adli, représentant CGT des douaniers en Isère, qui nous explique ce qui se passera pour un voyageur français voulant se rendre à Londres par avion depuis la France.
Il va être contrôlé comme un Britannique. En fait, aujourd'hui, en règle générale, la personne arrivait en 10 secondes, on faisait le passage fichier. Donc on prend le visa ou le passeport, on le passe dans un lecteur qui interroge le fichier si la personne est recherchée ou signalée, au-delà de quoi la personne après va chercher son bagage. Là, ce sera la même opération, mais par contre, à la sortie, dès que la personne aura son bagage, elle devra passer en douane et les douaniers pourront ou devront contrôler tous les bagages de chaque personne qui viendra d'Angleterre pour vérifier les marchandises.
James Berezich, le Brexit, c'est aussi ça, c'est des complications pour la vie de tous les jours, que ce soit le voyageur, la personne qui veut se rendre en Angleterre.
C'est très intéressant avec la question du tourisme, parce que en effet, il y a une chute de valeur avec le livre. Et ça, c'est entre 30 et 20%. Et il change tout le fois. Mais normalement, entre le moment qu'ils ont annoncé le référendum et maintenant, c'est entre 30 et 20%. Et donc, avec ces faits, normalement, il y a une augmentation du tourisme. C'est moins cher d'aller en Angleterre pour les étrangers. Mais vous avez ici un pays qui parle tout le fois des étrangers, des migrations. Et le truc qui est incroyable, c'est que nous avons une destination touristique et vous avez une chute des touristes, même que si c'est moins cher. Et pour moi, ça, c'est incroyable.
Mais
et ce sera la dernière intervention. Je suis désolé, mais allez-y.
Mais simplement, si on prend dans un autre sens, les Britanniques qui veulent voyager à l'étranger, ça aussi c'est en chute libre. Les agences de voyage en Angleterre constatent qu'ils sont obligés de certaines destinations vers le sud, vers le soleil, et ils sont obligés de brader les voyages moins 15, moins 20%. Et après, il y a des problèmes aussi administratifs. J'ai lu le cas de quelqu'un qui voulait prendre sa voiture aller en Portugal depuis Londres. Il est obligé de prendre un supplément d'assurance parce que ça serait après le 29 mars. Donc, la fameuse carte verte ou green card qu'on avait bien avant 73, elle est arrivée dans l'Union européenne.
On le voit, donc c'est beaucoup de conséquences, que ce soit macroéconomiques ou même du quotidien. quotidien. Je vous remercie Phil Hare et James Berejic d'être venus à notre antenne pour discuter des conséquences du Brexit. Et l'émission Microcité va continuer, Florine.
Merci Xavier, merci à vos invités de nous avoir rejoints. Microcité, ça continue.
16h30, 17h.
Traité de Maastricht, monnaie commune, marché unique, banque centrale européenne ou encore politique agricole commune. Mais au fait, à quoi ça sert? Julien Penaud a fait un tour d'horizon de l'importance de l'Union européenne dans notre quotidien.
Alors déjà, on commence avec une monnaie unique. Imaginez, vous devez acheter une maison. Qui dit un gros achat, dit un crédit, donc forcément un prêt à la banque. Et bien là, l'Union européenne joue déjà un rôle avec la BCE, la banque centrale européenne. Explication avec l'économiste Henri Sterdignac.
Actuellement, les taux d'intérêt qu'elle fixe sont pratiquement à zéro. Et c'est ce fait que les taux d'intérêt auxquels elle prête aux banques sont nuls qui fait que les banques aujourd'hui peuvent prêter à des taux extrêmement bas aux entreprises et aussi aux ménages français. Si vous voulez acheter un logement, vous pouvez obtenir un taux qui aujourd'hui peut être de 1,3%. Cela parce que votre banque peut se refinancer au taux zéro auprès de la Banque Centrale Européenne.
Je prends maintenant ma valise direction l'aéroport. Voyager un week-end ou même tout un semestre grâce au programme Erasmus créé en 1987. Étudiant, je peux partir dans 33 destinations dont 28 européennes. Si je suis maintenant un ouvrier, je peux devenir un travailleur détaché, c'est-à-dire exercer mon métier à l'étranger pendant un an maximum en conservant le système de sécurité sociale de mon pays d'origine. Mais il y a des abus. Olivier, ouvrier dans le BTP à Grenoble.
Les pays de l'Est qui sont arrivés, il y a pas mal de pays comme ça. Et c'est vrai que c'est plus ou moins déloyal parce qu'ils ne sont pas payés au même taux que nous. Je pense qu'à mon avis, ils ne sont même pas au SMIC alors que nous, on est largement mieux payés à la base.
La mobilité des personnes donc, mais pas pour tous. La crise des migrants l'a montré, l'UE avec Frontex peine à gérer l'arrivée des réfugiés politiques aux portes de ses frontières. Ce que dénonce Daniel Delpech, membre de la CIMAD Grenoble, une association militante d'aide aux migrants.
Au lieu d'accueillir les gens, on met en place un système qui les empêche de venir, ce qui évite de se poser la question de leur accueil. L'objectif de Frontex, c'est pas permettre que de respecter la Convention de Genève, c'est d'empêcher les étrangers de pénétrer en Europe. Et donc de renforcer les contrôles aux frontières pour que la frontière soit le plus hermétique possible.
A l'inverse, les frontières s'ouvrent pour les exportations de marchandises. Depuis 1957, le traité de Rome a instauré un marché commun qui facilite les exportations intra-européennes. C'est le cas de Thomas Chimo, vigneron en Isère.
Vous avez moins de papiers à remplir, vous n'avez peut-être pas de demande d'analyse complète comme si j'envoyais au Japon. Après, c'est pareil, par rapport aux États-Unis, ils nous demandent plus de renseignements, plus de papiers derrière, quoi.
En plus de la viticulture, l'Union européenne soutient les agriculteurs avec la politique agricole commune, la PAC, créée en 1962. Si je suis un céréalier, par exemple, je ne suis pas exposé directement au marché mondial. Pascal Denoli, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Isère.
Le système actuel octroie à peu près 200 euros de plus à l'hectare aux céréaliers français. S'il est hors Union européenne, il a le prix du marché. Celui qui est dans l'Union européenne a tout de même le prix du marché, plus ses 200 euros. Ça lui permet au moins de gagner sa vie.
Des avantages surtout économiques, donc, qui ont peut-être délaissé l'aspect social de cette union d'États. Le départ du Royaume-Uni et la montée des extrêmes sur le continent en sont les meilleurs exemples, ou les pires.
Un reportage de Julien Penaud. Bientôt 17h sur Radio Campus Grenoble, le rappel des titres avec Léo Corcos.
Les députés britanniques ont adopté hier un texte demandant le report du Brexit au 30 juin. La balle est maintenant dans le camp du Conseil européen. Il décidera s'il accorde ce délai lors de son sommet les 21 et 22 mars. 12e jour de grève pour les douaniers français dans les aéroports comme aux frontières. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail en vue du Brexit. La grève devrait se poursuivre ce week-end. Les élections européennes, l'essayiste Raphaël Glucksmann s'est déclaré candidat. Le cofondateur du mouvement Place Publique devrait mener une liste avec le soutien du Parti Socialiste. Hier, c'est la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui s'est aussi déclarée candidate. Mais elle doit aussi obtenir l'aval de son parti, La République En Marche. Et puis le Salon du Livre ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. L'Europe est l'invité d'honneur. Vous avez jusqu'à lundi pour en profiter.
Microcité. Il est maintenant 17h, Microcité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site www.campusgrenoble.org ou nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci à tous de nous avoir écoutés. Toute l'équipe de Microcité vous souhaite un très bon week-end. À vendredi prochain.